Europe 1.
Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Une émission un peu exceptionnelle aujourd'hui. Quand j'ai appris la mort soudaine de Charles Aznavour, je me suis dit, il faut que je raconte un bout de sa vie. Donc je me suis plongé dans ses autobiographies, notamment Le Temps des Avants, paru en 2005 chez Flammarion, et dans l'excellente biographie qu'a écrite Robert Bellerey, qui est là avec moi pour le débrief tout à l'heure. Bonjour Robert Bellerey.
Bonjour.
Votre livre s'appelle Vie et légende de Charles Aznavour. Il est sorti au début de l'année aux éditions de l'Archipel. Alors j'ai choisi de raconter le tout début de l'histoire de Charles Aznavour, son enfance d'enfant de la balle au début des années 30, son adolescence assez insouciante finalement pendant la Deuxième Guerre mondiale à Paris, sous occupation allemande, et puis jusqu'à sa rencontre après-guerre avec Édith Piaf qui va le lancer dans le grand bain. J'avoue que je me suis régalé à écrire pour vous cette histoire et j'y ai passé une petite partie de ma nuit. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Comment et pourquoi sa mère, Nar Bagdasarian, turque d'origine arménienne, et son père, Mamigon Asnaourian, géorgien d'origine arménienne, se sont-ils retrouvés à Paris un jour de 1923? Eh bien, Charles ne l'a jamais vraiment su. Ses parents n'ont jamais vraiment raconté. Ils n'en parlaient jamais du génocide, de comment ils y avaient échappé. Ils n'en parlaient pas. Et il ne sait pas non plus comment ils se sont rencontrés, ni comment ils se sont aimés. Il sait juste qu'un jour, 7 ou 8 ans après le génocide, ils sont montés sur un bateau italien à Istanbul, en Turquie, et ils ont atterri en Grèce, à Salonique. C'est là que sa mère a accouché de sa première fille, Aïda. Et ensuite, ils ont pris un bateau pour Marseille et ils se sont retrouvés à Paris. Mais pas dans l'idée de rester en France. Ils voulaient aller aux États-Unis, la terre promise de tous les migrants. Alors, ils sont allés à l'ambassade américaine.
Bonjour. Voilà, nous sommes d'origine arménienne. Nous voudrions émigrer aux États-Unis. Comment faut-il faire? Vous avez des parents là-bas? Vous parlez anglais? Ah non. Quoi qu'il en soit, le quota pour les Arméniens est complet pour cette année. Ah, bon. Mais vous pouvez remplir ce formulaire et on vous dira quand vous pourrez partir, si votre dossier est accepté. Entendu.
Les parents Aznaourian attendent donc, dans un tout petit appartement, boulevard Brune. Ils ne parlent pas un mot de français. Pas facile pour les démarches. Et puis au bout d'un an, ça y est, ils ont le visa. Ils ont le visa pour l'Amérique. Sauf qu'entre-temps, ils se sont acclimatés à la France. La mère ne veut plus partir.
Micha, on est bien ici, non? Pourquoi partir encore, hein? T'as du travail, moi je suis enceinte. On reste en France, non?
Ça s'est joué à pas grand-chose. Les Aznaourian ont bien failli être américains. Le père a du travail, en effet. Et vous savez quel est son travail? Il est chanteur, baryton avec une voix d'opérette. Il chante dans les bals en russe et en arménien. Et la mère, ça c'est vrai, est enceinte de son deuxième enfant. Elle accouche le 22 mai 1924 dans une clinique pour les indigents, la clinique Tarnier, rue d'Assas.
Comment voulez-vous l'appeler? Chanour. Comment vous dites? Chanour. Bon, Charles, ça vous va, hein? Eh bien, ça sera Charles.
Et la petite famille Aznaourian, qui vient de s'agrandir, s'installe dans le quartier latin, au 36 rue Monsieur le Prince. Une seule pièce. Une cuvette, un bro à eau, les parents dorment dans une alcôve fermée par un rideau et Aïda et le tout petit Charles, tête bêche dans un lit pliant. Le père continue de chanter dans les bals des immigrants russes ou arméniens. Mais disons la vérité tout de suite, c'est un noceur. Il passe sa nuit à faire la fête et à picoler. Et la mère aussi est un peu artiste. Elle joue dans de petites pièces ou des opérettes de la communauté arménienne de Paris. Et pour arrondir ses fins de mois, elle fait de la couture et de la broderie. Voilà comment a commencé la vie du jeune Charles Aznavour. Dans l'ombre de parents fantaisistes et aimants.
Juste avant de retrouver Christophe Onglade, place à un grand classique de Charles Aznavour. Emmenez-moi tout de suite sur Europe 1.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La 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 la.
Emmenez-moi de Charles Aznavour. Charles Aznavour qui est à l'honneur ce 25 décembre avec Christophe Ondelat sur Europe 1.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui, au lendemain de sa disparition à l'âge de 94 ans, les débuts dans la vie de Charles Aznavour. Et nous en étions au tout début. Charles a eu beaucoup de mal à reconstituer l'histoire de ses parents qui émigrent en 1922 de Turquie et qui arrivent en 1923 à Paris, avec pour projet d'émigrer aux États-Unis. Un an plus tard, ils obtiennent leur visa pour l'Amérique, mais choisissent de rester en France. Le père fait bouillir la marmite en chantant dans les bals et Charles vient au monde. Et un soir, le petit Charles a dans les 3 ans, les parents ont monté une petite troupe, ils chantent des opérettes arméniennes dans un petit théâtre. Et comme ils n'ont pas les moyens de se payer une nounou à chaque représentation, ils emmènent leurs 2 enfants, Aïda et Charles, qui passent le spectacle à jouer dans la coulisse. Et un jour, juste avant le spectacle, le petit Charles monte sur la scène et il entr'ouvre le rideau. Waouh ! et il se retrouve seul face au public, seul, 3 ans. D'autres seraient partis en courant, pas lui. Il se met à réciter un poème en arménien et les gens applaudissent. Ce soir-là, devant un public d'émigrants, j'attrapais le virus qui depuis ne m'a jamais quitté. Sa première scène, 3 ans. Et en 1933, Charles va sur ses 8 ans. Ses parents l'inscrivent dans une école qui est juste en face de chez eux. Une école qu'ils choisissent par commodité donc. Mais qui est une école un peu particulière, l'école des enfants du spectacle. Elle a été créée par un ancien sociétaire de la Comédie française qui s'inquiétait que beaucoup d'enfants comédiens soient illettrés. Et donc il a créé cette école pour que les apprentis comédiens apprennent à lire, à écrire et à compter comme les autres. Sauf que les cours commencent à midi, pour permettre aux futurs acteurs de jouer le soir dans des troupes, de se coucher tard et donc de se lever tard. Et ça va donner des idées au petit Charles. Un jour, sans rien dire à ses parents, il envoie une lettre au directeur du théâtre du Petit Monde. « Cher monsieur, vous faites des spectacles pour enfants, je voudrais y participer. » 8 ans. Et il est convoqué pour une audition. Il ne sait rien faire. Il n'a rien à présenter. Si peut-être une danse. Il connaît une danse cosaque. Alors il demande à sa mère de l'accompagner au piano et il se met à danser. Comme dans les chœurs de l'armée rouge, vous savez, accroupi en lançant les jambes en avant, façon Kazachok. Merci. Laissez-nous votre adresse. On vous écrira. Candidat suivant. Eh bien, 15 jours plus tard, le petit Charles reçoit une lettre. On lui propose un petit rôle, son premier rôle, sur la scène du Vieux Trocadéro, à la veille de Noël 1933. Juste après, un metteur en scène vient à l'école des enfants du spectacle. Il cherche un enfant pour jouer le rôle d'un noir. Il fait aligner tous les élèves contre le mur du fond de la cour et il les interroge un par un. Et il arrive à la hauteur de Charles. « Toi, petit, tu sais faire des accents ?»« Ah, moi, j'apprends tout ce que vous voulez, monsieur. » « Je voudrais un accent africain. »« Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? » ?»« Très bien. Tu te présentes lundi matin au studio des Champs-Élysées. J'aurai peut-être un rôle pour toi. » Et voilà comment Charles, 10 ans, se retrouve sur scène pour 30 représentations, le visage peinturluré de noir. Et encore après, en novembre 1935, Charles joue le jeune Henri de Navarre, le futur Henri IV, sur la scène du théâtre Marigny, aux côtés de Pierre Fresnay et d'Yvonne Printemps. Il gagne 10 francs par répétition et 14 francs par représentation. Il garde une pièce ou deux et tout le reste, il le donne à sa mère. Tout ça pour dire que le jeune Charles a commencé comme comédien. Alors que sa sœur, elle, Aïda fait déjà la chanteuse. Aïda a dans les 14 ans, elle vient d'intégrer une troupe. La troupe d'un chanteur marseillais qui s'appelle Prior. Et un jour, Charles rejoint la troupe. Pas encore pour chanter, pour l'instant, il a un numéro. Il fait l'imitateur. Il imite, entre autres, Charlie Chaplin. Mais c'est comme ça qu'il découvre les joies d'une tournée en voiture. Imaginez l'aventure. Charles a quoi ? Dans les 10-11 ans, il part en tournée en Provence, en voiture. Quelle initiation à la vie d'artiste ! Nous avons eu des parents en or, qui nous faisaient confiance, qui nous laissaient la bride sur le cou. Artistes pleins de fantaisie et néanmoins parents responsables. Le père Aznaourian, je vous l'ai déjà dit, est un joyeux de riz. Sous prétexte de chanter, il est dehors presque tous les soirs. Et il lui arrive de rentrer au beau milieu de la nuit. Mais pas sur la pointe des pieds, hein. Il réveille tout le monde. Souvent, il rentre avec des partitions de chansons qu'il a achetées dans les boîtes de nuit. Il veut les chanter tout de suite. Hé Aïda, allez lève-toi. Tu te mets au piano ? Le lendemain matin, bonjour l'école. Nous étions heureux de nous savoir une famille différente de toutes celles que nous fréquentions.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui, au lendemain de son décès à l'âge de 94 ans, les débuts de Charles Aznavour. Fils d'immigrés turcs et géorgiens d'origine arménienne, le petit Charles naît à leur arrivée à Paris en 1924. Le père Aznaourian gagne sa vie comme chanteur et la mère comme couturière et comme comédienne. Charles est scolarisé à l'école des enfants du spectacle. Dès l'âge de 8 ans, il joue des rôles d'enfant dans des pièces de théâtre. Et il intègre la troupe d'un chanteur méridional avec lequel il fait un numéro d'imitation. Et il part en tournée en voiture. Et nous le retrouvons maintenant, juste avant la guerre. Charles va avoir 15 ans. Et le père Aznaourian, s'engage dans l'armée française. Il part. Et Charles, sa mère et sa sœur en larmes vont l'accompagner à la gare d'Austerlitz.
Chérie, les enfants, vous me promettez, hein, vous restez à Paris. Vous ne partez pas, vous ne quittez pas Paris, d'accord ?
Donc on reste à Paris, malgré l'avancée des Allemands, qui ne sont plus très loin maintenant. Et il faut trouver de l'argent. Charles se met à faire du commerce. Il commence par acheter un stock de tablettes de chocolat et il les revend au coin de la rue. Et il fait pareil avec des baryones. Et puis quand les Allemands arrivent, il leur vend tout ce qu'il peut. Et puis finalement, le père rentre, assez vite. Et il échappe au stalag. Et le père, en tout cas c'est ce que raconte Charles dans ses mémoires, devient résistant, proche de Missak Manouchian, héros communiste de la résistance. Et les Aznaourian se mettent à aider notamment les Arméniens enrôlés de force par les Allemands. Voilà le plan, je vous explique. Les types débarquent en uniforme de la Wehrmacht chez Aznaourian. Hop, ils se déshabillent, le père leur donne des vêtements civils et ils ressortent, pas vu, pas pris. Et qui va se débarrasser des uniformes allemands en les jetant à l'égout ? Eh bien Charles, 15 ans. Toujours pour gagner 3 sous, Charles se met à vendre des journaux à la criée, dans la rue.
Demandez Paris Soir.
Avec son père, il se met aussi à vendre des victuailles sur le marché. Des saucissons qu'ils vont acheter chez Olida et qu'ils vont vendre ensuite à deux sur un vélo dans les marchés de banlieue. Et puis rapidement, on ne trouve plus de saucissons, alors il se met à vendre des chaussettes. Et puis petit à petit, malgré l'occupation, les cabarets commencent à réouvrir. Et le jeune Charles finit par se trouver une troupe. Il joue des sketchs, il fait une danse à pâche et il commence à chanter. Il commence même à composer sur le piano du salon. La chanson s'appelle « Il y a des hiboux dans le beffroi ». Et tous les soirs, il va chanter sa chanson dans un cabaret, le Jockey. Bon, honnêtement, il chante et personne ne l'écoute. Hein. Mais c'est comme ça qu'il se lance. Pendant la guerre. Et un jour, il a le culot d'aller chanter sa chanson à l'un des compositeurs les plus célèbres du moment, Loulou Gasté, qui deviendra le mari de Lynn Renault. Il massacre sa chanson sur le piano de Loulou.
« Je vous remercie, jeune homme, mais ça n'est pas du tout le genre de chanson qui intéresse ma maison d'édition. »
Par sa sœur Aïda, Charles fait pendant la guerre la connaissance d'une bande de jeunes chanteurs et musiciens. Ils se réunissent dans un local près de la place Clichy, le soir. Normalement pas plus tard que minuit, hein, parce qu'après ça finit au commissariat, c'est le couvre-feu. Sauf que ça dégénère souvent en bal clandestin. De jeunes parisiens, sous l'occupation. Charles se fait tout de suite adopter. Et du coup, quand la bande crée un club près des Champs-Élysées, le club de la chanson, eh ben, il donne un coup de main, et un coup de peinture, et un coup de menuiserie. Edith Piaf est là le soir de l'inauguration. Eh ouais. Et c'est là, chez ces jeunes parisiens qui ont décidé de ne pas s'embarrasser de la guerre, que le jeune Charles fait à 19 ans une rencontre qui va changer sa vie. Pierre Roche, un bon pianiste, l'accompagnateur qu'il lui fallait. Parce que Aznavour joue un peu de piano, mais franchement pas bien. Pas assez pour s'accompagner lui-même. Et l'avantage de ce Pierre Roche, c'est qu'il est swing. Alors qu'Aznavour, pour l'instant, est un peu passo-doble, vous voyez, un peu musette. C'est Pierre Roche qui va l'amener au swing. À part ça, il faut que je vous dise, Côté look, le jeune Aznavour est un parfait zazou, comme on dit à l'époque. Les cheveux trop longs dans le cou, une veste trop large et trop longue, des falzards très étroits avec des grands revers et des semelles bien épaisses. Pas du tout le look pétainiste, vous l'avez compris. Et le zazou, bien sûr, tombe amoureux. Micheline Rugel, 16 ans. Ils se marieront après la guerre. Et donc le duo Roche-Aznavour se lance. Ils n'ont pas de répertoire. Hein. Charles n'a qu'une seule chanson dans sa musette, « Il y a des hiboux dans le beffroi ». Alors, ils vont chanter du Charles Trenet, pour commencer. Mais Charles se colle à l'écriture et il en sort ça.
J'ai bu, j'ai joué et j'ai tout mis sur le tapis. À la roulette de la vie, t'as tout gagné, moi j'ai perdu. Alors j'ai bu.
C'est son premier succès. Vous avez remarqué ? Ça swing. C'est l'effet Pierre Roche. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Charles vient de découvrir un truc. Il sait écrire. Je pouvais, malgré mon manque de culture, écrire des rimes en respectant la forme et la césure. Pendant les deux dernières années de l'occupation, Charles et Pierre Roche vont donner des concerts à Paris et en province, figurez-vous, en pleine guerre. À Saumur, par exemple, ils y vont en vélo, à deux sur un vélo, un sur la selle, un sur le cadre. Il faut en vouloir, hein. Et ils en veulent. Et après Saumur, ils vont à Angers, et puis à Laval, et puis au Mans, toujours en vélo. Enfin, c'est ce que dit la légende. Parce que ça paraît un peu long quand même, comme périple, en vélo. Et puis, il faut que je vous dise, avec Aznavour, il y a la vérité et puis il y a la légende. Et il a toujours veillé à sa légende. Il l'a arrangée à sa sauce. Bref, la fin de la guerre arrive. Charles a déjà roulé sa bosse dans la chanson. Et c'est maintenant que ça commence, vraiment.
On de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui, au lendemain de sa disparition à l'âge de 94 ans, les débuts dans la vie de Charles Aznavour. En m'appuyant sur la biographie de Robert Bellerey, Vie et légende de Charles Aznavour, qui sera avec moi dans un instant pour le débrief. Je vous ai raconté sa naissance, en 1924, fils d'immigrés turcs et géorgiens d'origine arménienne, son inscription à l'école des enfants du spectacle, qui scelle son destin d'artiste, ses premiers pas comme acteur à l'âge de 8 ans, et je viens de vous raconter sa guerre sous l'occupation allemande à Paris, durant laquelle il intègre une bande de jeunes chanteurs, le Club de la Chanson, et sa rencontre avec le pianiste Pierre Roche. À la fin de la guerre, Aznavour finit par se marier. Et à la fin de l'année 46, il décroche avec Pierre Roche un contrat qui le fait changer de catégorie. Il chante au Bœuf sur le Toit, près du rond-point des Champs-Élysées. C'est un endroit que fréquentent des gens comme Jean Cocteau, comme Jean Marais, comme Charles Trenet, comme Léo Ferré. Et donc Aznavour et Roche, les petits derniers, les moins connus aussi. 6 mois plus tard, voilà le duo invité d'une émission de radio. Music Hall de Paris, présenté par Francis Blanche, et dont les invités principaux sont Charles Trenet et Édith Piaf. Eh bien les garçons, c'est pas le moment de vous louper.
Il formait un retombé, il parlait par un homme, il buvait des cafés frais avec des pains.
À la fin de l'émission, Édith Piaf invite Charles à passer la soirée chez elle, avec Charles Trenet. Elle m'a demandé si je savais danser la valse à l'envers. J'ai dit oui. Alors elle a demandé qu'on retire le tapis et elle m'a fait valser à l'envers. À l'époque, Piaf est déjà une vedette. Et Charles lui a tapé dans l'œil. Et elle le veut lui et Roche sur sa prochaine tournée. 4 ou 5 chansons en levée de rideau. Et c'est lui qui, au début du spectacle, tous les soirs, fait ce qu'on appelle l'annonce.
Un seul nom et dans ce nom toute la chanson, Édith Piaf.
Et c'est parti. Mulhouse, Strasbourg, Bruxelles, Rouen, Le Havre, et puis la Suisse, Lausanne. Charles et Edith s'entendent comme larrons en foire. Et surtout pour picoler, après le spectacle, on ne les tient pas. Et qu'est-ce qui sort de tout ça? Eh bien, Aznavour est à la page. Même la grande Mistinguette lui commande des chansons modernes. Elle n'ira pas jusqu'au bout, mais c'est bon pour l'ego. Il est à la page parce qu'il swing. Dans ces années-là, il faut swinger.
J'aurais voulu être fidèle, vivre comme un homme modèle, mais mon cœur est inconstant.
Le premier disque du duo Roche-Aznavour sort chez Polydor en 1948. 4,78 tours. Et dans la foulée, Piaf sort sa première chanson, écrite par Charles. Il pleut.
Il pleut, les pépins touristes compagnons, comme d'immenses champignons, sortent un par un des maisons. Il pleut.
Et juste après, avant de s'envoler pour New York, Piaf lui glisse.
Et si vous veniez me voir en Amérique, ça serait chouette.
Ils en ont très envie, mais ils n'ont pas un sou. Sauf si leur éditeur leur fait une avance. Ils en ont très envie de l'Amérique. Alors l'éditeur dit oui. Et début septembre 1948, Aznavour et Roche s'envolent pour New York. Et à l'arrivée, il se passe un truc incroyable. Ils n'ont pas de visa et pas de billet retour. Alors, on les enferme sur l'île d'Ellis Island, au pied de la Statue de la Liberté, avec les immigrants clandestins, à 40 par dortoir. Et ça dure 3 jours. Et puis finalement, Charles finit par convaincre le juge de leur donner un visa. Et donc les voilà à New York, fin 1948, à Broadway, devant les affiches des music-halls, à baver, mais fauchés comme des rats. Charles est obligé de vendre des chaussures en piton qu'il s'était offert au carreau du Temple à Paris. On y est.
La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème,
il faut bien que j'arrête mon histoire quelque part. Alors je vais l'arrêter là. Parce que lui, il ne va jamais plus s'arrêter. Et ça va durer longtemps, très longtemps, jusqu'à cette fichue journée du 1er octobre 2018, où d'un coup c'est fini. Quelle vie! Quelle vie!
La bohème, ça voulait dire, tu es jolie.
Voilà cette chanson qui est le grand tube de Charles Aznavour pour conclure ce récit que j'ai essentiellement tiré du livre « Vie et légende » de Charles Aznavour, écrit par Robert Belleret, qui est là avec moi, recoupé, mais vous le faites vous-même en fait, avec les autobiographies de Charles Aznavour. Combien y a-t-il eu d'ailleurs d'autobiographies de Charles Aznavour,
Robert ? Je crois qu'il a dû pondre 6 ou 7 livres.
Qui se contredisent.
Qui se contredisent souvent. Le premier, il n'a pas tenu la plume, il l'a à nouveau très honnêtement.
Et il
c'était,
l'a fait écrire
c'était
par
Jean Nolly qui tenait la plume et qui brodait, qui racontait tout son contraire.
Donc on s'aperçoit, vous êtes aperçu en vous penchant sur sa vie, qu'en fait, il a bâti une légende lui-même.
Oui.
Il a inventé des trucs.
Il a inventé des trucs. À mon avis, là, il était bonne école avec Édith Piaf, qui était la reine de la
mythomanie.
Absolument. Piaf, née sur le trottoir, c'est pas vrai. Elle est née dans une clinique. Piaf, aveugle pendant 4 ans, c'est pas vrai. Elle a laissé dire, c'est pas forcément elle qui a inventé, elle a laissé dire, et puis ça gonfle et ça fait des trucs. Et Aznavour, c'est un peu ça. C'est-à-dire, par exemple, sur le nombre de chansons. On dit maintenant couramment...
L'homme aux 1000 chansons.
1000 chansons, 1300, puis lui dit non, 1400, puis demain il y en aura 1401 parce que j'en ai... Bon, moi j'ai fait un compte précis d'apothicaire, c'est quelque chose comme 600. C'est déjà énorme, c'est déjà prodigieux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de déchets là-dedans, c'est formidable. Alors pourquoi doubler le chiffre? Donc il y a ça, il y a de l'exagération qui est assez drôle finalement.
Alors vous êtes arrivé à retrouver le vrai dans le faux et à bâtir cette histoire que j'ai partiellement racontée, en tout cas jusqu'à cette année 1948. Ce que je vous propose, c'est de marquer tout de suite une pause et puis de reprendre les points les plus importants en commençant par le début, et cette ignorance qu'il a et qui nous rassure un peu, parce qu'on est tous un peu ignorants du passé de nos ancêtres, on le regrette, mais souvent trop tard, quand ils sont morts, c'est ce qui lui est arrivé, il ne sait pas vraiment comment et pourquoi ses parents sont arrivés un jour de 1923 à Paris.
Christophe Fondelatte revient dans deux minutes, juste le temps d'écouter le titre parfait pour cette période de fête, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs, c'est Noël au Saloon, interprété par le grand Charles Aznavour sur Europe 1.
Il neige à gros flocons, le bon Dieu tend ses moutons, ou bien c'est la lune en plume. Chez Lily sont réunis tous les noceurs du pays pour entendre sonner minuit. C'est Noël chez Lily Melon, la patronne du salon. Vous pouvez l'inviter au bar, ça coûte $1. Vous pouvez goûter avec elle le pudding traditionnel. C'est la marraine des cœurs en peine chez Lily, c'est tous les jours Noël. Noël, c'est émouvant quand on a femme et enfant, toute une famille gentille. Mais pour vous les mal mariés, vous les veufs, les divorcés, j'ai l'adresse que vous cherchez. C'est Noël chez Lily Melon, une bien jolie personne qui vous joue sur son gramophone les airs d'Ajolson. Donnez-lui son petit cadeau, glissez avec un propos selon l'usage. Dans son corsage, chez Lily, c'est tous les jours. Lily, c'est tous les jours. Oui, chez Lily, c'est tous les jours Noël.
Ouais. Eh oui, c'est Noël avec Charles Aznavour. Noël au Saloon, c'est ce qu'on vient d'écouter. Et on continue à en apprendre plus sur l'artiste avec Christophe Fondelatte, tout de suite sur Europe 1.
Avec Robert Bellerey, qui est l'auteur de cette très belle biographie que franchement je conseille à tous les fans. C'est une somme, c'est presque un dictionnaire Larousse, ça fait plus de 600 pages. C'est l'histoire au millimètre de la vie de Charles Aznavour. En même temps, c'est 94 ans de vie à revisiter. Ça s'appelle « Vie et légende de Charles Aznavour », paru au début de l'année aux éditions de l'Archipel. Vous avez eu du nez parce que probablement que ça va se vendre maintenant comme des petits pains, Robert Bellerey. Alors je veux qu'on revienne sur le tout début, parce que j'ai trouvé vraiment intéressant qu'il ne sache pas grand-chose. Moi, je pensais qu'il savait tout de la venue de ses parents arméniens. En fait, arménien, ça ne voulait rien dire à l'époque. Il n'y avait pas de pays qui s'appelait l'Arménie. Ils étaient turcs. Enfin, sa mère était turque et son père était russe en vérité. Il était géorgien, mais la Géorgie était à l'époque dominée par la Russie. Donc, son père était turc, sa mère était turque, son père géorgien. Et il ne sait pas pourquoi ils sont arrivés en France.
Oui, c'est troublant, mais c'est souvent le cas. On en sait des fois plus sur des étrangers que sur ses propres parents ou grands-parents. Je crois qu'on est tous un peu là. Et par exemple, il ne savait pas où il s'était marié. Il l'a répété 50 fois et on n'en parlait pas, etc. Et moi, là, j'ai eu une chance dingue. J'ai retrouvé la trace du lieu et de la date du mariage de ses parents.
Où ça ?
Ils sont mariés en 1922. Et ce qui est très curieux, c'est... à Smyrne. Non, c'est, à l'époque, c'est sous administration grecque. Mais c'est une petite enclave au milieu de la Turquie. Ça s'est très mal fini un an après dans un bain de sang, 10 000 morts. Mais ils étaient là. Alors, est-ce qu'ils étaient réfugiés ?
Est-ce qu'ils ont fui le génocide d'une manière ou d'une autre ? Ils arrivent en France 7-8 ans
indirectement, après. Indirectement. Le père, non, parce qu'en Russie, il n'y a pas eu de génocide. Et sa mère, oui, la mère d'Aznavour, ça, j'ai retrouvé, hélas, aucune trace. Et lui non plus. Toute sa famille, elle a disparu. Donc elle n'a pas disparu n'importe où, elle est disparue dans cet exil de la faim à travers le désert, jusqu'à ce qui est aujourd'hui la Syrie, là où il y a eu un génocide, mais aussi beaucoup de morts d'épuisement, de famine, ça a été l'horreur absolue. Et elle n'a jamais eu de nouvelles. La seule rescapée, c'était sa grand-mère, non pas sa mère, mais sa grand-mère, qui les a accompagnés à Paris, oui. Qui logeait donc dans le petit logement voilà. De la rue Monsieur
j'ai
le Prince.
J'ai zappé les grands-parents parce que c'était des personnages qu'il fallait faire
c'est
rentrer.
C'est assez compliqué, hein, était, avec était... les histoires de patronymes. De
mais lieux. Tout ça dormait dans la même pièce, dans ce fameux studio de la rue Monsieur le Prince. Le nom, alors j'entends déjà des auditeurs qui sans doute ont dit, il dit Aznaourian, il oublie de dire Vourian, mais en fait c'était Aznaourian.
Alors là, je crois que ça n'avait jamais été dit, ni découvert. Moi, j'ai demandé tout bêtement l'extrait d'acte de naissance à la mairie. Et j'ai trouvé Aznaourian sans V.
Est-ce que c'est une erreur ?
C'est possible, tout est possible. Mais sauf que ça a été reproduit après tout le temps. Par exemple, l'inscription de Charles et de sa sœur Aïda à l'école des enfants du spectacle dont vous parliez.
Ouais.
Alors j'ai retrouvé ça, c'est assez très émouvant. C'est écrit à la plume, évidemment. Et c'est écrit Aznaourian. Et la mère de Charles, en plus, son nom de jeune fille.
On ne sait pas quel est son nom, la mère de
lui,
Charles.
Lui, il a toujours dit Bagdasarian.
Oui.
Et là, partout, je trouve du Papazian. Donc, pourquoi ? Je n'ai pas l'explication. Lui-même, peut-être, ne le sait pas. Et en plus, les parents sont notés comme de nationalité russe à l'école.
Ouais.
Bon. Dans cette école où il y a toutes les nationalités, il y a beaucoup d'enfants d'Italiens, Russes, d'Europe de l'Est. Il y a très, très peu de Français dans cette...
Alors, donc lui, cette histoire de prénom, d'ailleurs, ses parents le baptisent Chanour, qui est un prénom arménien.
Oui. Ils avaient l'intention, mais
En fait, on leur a dit que c'était pas possible.
Je pense. Alors c'est comme ça qu'ils le racontent. Ça,
c'était déjà Zemmour. Ils ont francisé le nom dès le début. Ils ont dit ça sera Charles.
À la mairie où la naissance a été déclarée, c'est souvent le cas, c'est des gens de la clinique qui s'en sont chargés.
Oui.
Alors lui dit, c'est mon père, il avait trop bu, il avait fait la fête pendant 3 jours, il est arrivé, il ne se rappelait plus du nom de sa femme. C'est pour ça qu'il a dit Papazian.
D'accord.
Bon, il explique ça, ça ne tient pas à la route du tout. D'abord parce que ce n'est pas le père qui est allé, c'est un employé de la clinique.
Alors,
petite parenthèse, mais qui est d'une histoire folle, Louis-Ferdinand Céline...
Oui.
Qui est un des écrivains, c'était pas un très grand lecteur à Aznavour, mais il aimait quand même la littérature. Et c'était une de ses idoles avec Balzac, avec Victor Hugo, etc. Louis-Ferdinand Céline était en stage dans cette clinique 6 mois avant la naissance d'Aznavour.
D'accord.
Et au service
de gynécologie
de maternité. C'est-à-dire qu'à 6 mois près...
Il se faisait accoucher par Céline.
C'est dingue. Alors, je suis sûr qu'il le savait pas, ça.
Moi, ce que j'ai découvert avec surprise, c'est que c'est un enfant de la balle.
Ah, pur.
C'est-à-dire qu'il a été élevé dans l'atmosphère du spectacle, de la scène, du rideau qui s'ouvre, des couchers tard, des levées tard, etc. C'est très original, quand même, pour un enfant des années 20.
Oui, sans doute. Oui, il y en a beaucoup qui rêveraient de ça parce que c'était la fête tout le temps. Le père quand même, il tenait un restaurant et il a été serveur tenu un restaurant. Mais dans ce restaurant, il oubliait souvent de faire payer les copains.
Donc il a planté son affaire.
Ça buvait sec, sûrement la vodka coulait à flot. On chantait, on dansait. Il a vécu au milieu de ça. Forcément, ça l'a imprégné. Quand il chante Les Deux Guitares, qui est une adaptation du folklore arménien, c'est ça qu'on retrouve, l'ambiance des violons, des tziganes, de la folie, de la démesure.
Alors, on zappe quelques passages pour aller sur la tournée avec ce prieur, dont je n'ai trouvé aucune trace. J'aurais adoré vous faire entendre un passage, une chanson de prieur qui était un chanteur méridional, qui faisait le tour de France. Ouais. Mais il fait une tournée avec lui, il a 11-12 ans.
Oui, c'est ça. Il y a plein d'autres gosses. Il y a sa sœur et puis il y a plein d'autres gosses. Il y en a un qui imite Maurice Chevalier. Alors que Charles aurait bien aimé avoir ce rôle-là.
Mais c'est le chouchou
Chevalier,
de prieur.
C'est le chouchou qui fait Maurice Chevalier. Alors lui, il fait...
Charlie Chaplin,
et puis...
Je me souviens plus.
C'est des stars de l'époque, mais qui aujourd'hui sont tombés d'un truc.
Et ses parents sont sacrément décontractés quand même.
Parce
que c'est un enfant.
Il les laisse partir. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur des malfrats, parce que c'est... ce prieur, c'est un petit côté Dickens. Il est avec des gosses qui travaillent, qui font des marionnettes, qui rangent les trucs, qui envoient les petits formats par courrier, qui font le ménage. C'est un côté un peu exploitation. Bon. Mais semble-t-il, c'était des braves gens. Et il semble que ça se soit bien passé.
Il allait en vacances chez ses prieurs.
Et oui, ils sont allés dans le Midi, ce qui était inespéré, parce que Aznavour, sinon, il était condamné à vivre dans les rues de Paris, quoi, où il se sentait très bien. C'était un vrai titi, hein.
On va marquer une nouvelle pause. Et puis on parle de la guerre qui, semble-t-il, n'a pas été un énorme traumatisme pour Charles Aznavour. En tout cas, lui, dans sa autobiographie, ne dit pas un mot de négatif sur la guerre. La guerre, pour lui, ça a été l'aventure et la découverte de la chanson après la pub. Avec mon invité qui est Robert Bellerey, auteur de sans doute la meilleure biographie de Charles Aznavour, Vie et légende de Charles Aznavour, paru au début de cette année aux éditions de l'Archipel. Vous avez mené vraiment une enquête, Robert Bellerey, et je voudrais qu'on parle de la guerre. J'ai eu ce sentiment quand même à vous lire et à réécrire ce passage-là, que Aznavour n'avait pas été une minute traumatisé par la guerre, qu'il avait vécu ça dans une forme d'insouciance absolument incroyable.
Ben, il était très jeune, il avait 16, 17 ans, 18 ans, donc c'est quand même les plus belles années. Il pensait à faire la fête, il pensait à son métier. Et puis c'était un débrouillard, je dirais même un démerdard, c'est quand même assez fort ce qu'il a fait. Il a fait du marché noir avec les Allemands, oui. C'est-à-dire qu'il allait vendre des tablettes de chocolat, des bas bidons, des parfums à la manque aux soldats allemands. Il n'y en a pas beaucoup, ouais. Parce que tout était bon pour lui. C'était un petit gars à la fois timide et très, très culotté, qui n'avait pas froid aux yeux, donc il faisait des coups comme ça... pour ramener un peu des sous à ses parents, quoi. Moi, je crois, un ado très sympa.
C'était pour ramener des sous à ses parents. C'est ça qui est important de dire, parce qu'il le dit à plusieurs reprises. Je gardais rien. Oui. Je donnais tout à ma mère. Oui, oui, et d'ailleurs, avec sa sœur, il n'avait de cesse.
Il avait un très bon
fond,
comme on dirait. Ouais. Hein, c'est ça. Ouais. C'était un brave petit, un brave gamin.
Alors, ses parents ont-ils été résistants? Est-ce que c'est parce que lui a entretenu ce mythe-là? J'ai lu dans votre livre que vous aviez des doutes, notamment sur la proximité qu'ils avaient avec Missak Manouchian, qui était ce résistant communiste.
Non, ils le connaissaient bien. Si vous voulez, ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas été collaborateurs, et qu'ils ont plutôt été du côté de la résistance. Jusqu'où Missak Manouchian, ils le connaissaient bien, oui, mais ils n'ont jamais hébergé. Hein. Enfin, d'après ce que j'ai pu recouper.
Cette histoire qu'ils allaient enlever leurs uniformes de la Wehrmacht chez eux, et puis
ça,
c'est Charles qui allait jeter
les uniformes. Moi, j'ai tendance à penser que ça a pu se produire. Ça s'est sûrement produit parce qu'à ce moment-là, le père travaille comme serveur dans un nouveau restaurant arménien où viennent beaucoup, beaucoup de militaires. Alors qu'il est convaincu ou accepté de dépanner certains qui voulaient déserter, de dire bon, bah, ce soir on se retrouve et on planque ton uniforme. Je pense que c'est vrai, je ne pense pas qu'il l'a inventé. Cela dit, c'est devenu maintenant un truc industriel. J'ai entendu dans un portrait télévisé qui est encore repassé ces jours-ci, le domicile des Aznavour, des Aznavourian, donc, est devenu la plaque tournante de la résistance. Bon, c'est énorme quand même, faut pas exagérer. Moi, je suis allé rue Navarin voir l'immeuble et l'appartement, la configuration. Non, ils ont dû donner des coups de main, ce qui est formidable déjà. Ils ont hébergé chez eux Méliné, qui était la compagne de Manoukian. Et comme vous savez, Manoukian a été fusillé. Ça a donné lieu à un sublime poème d'Aragon, l'affiche rouge. Donc, ils étaient très proches de ça. Maintenant que sa mère a été portée des armes pour certains attentats qui, d'ailleurs, ne correspondent pas au recoupement que j'ai pu faire. Bon, je crois qu'il en a rajouté un peu. Vous disiez pas traumatisé.
Il le dit pas, en tout cas.
Oui, c'est ça.
Avec du recul, ça n'a pas laissé.
Il faisait la brinque sans arrêt avec Pierre Roche, qui était un peu plus âgé que lui, qui était un coureur, un fêtard incroyable.
La vérité, c'est qu'Aznavour jouait du piano très mal.
Oui.
Et que donc Pierre Roche lui enlève une épine du pied. Lui, il sait jouer.
Bien sûr. Ils font un duo de hasard, d'ailleurs. Ils se retrouvent un jour dans un petit gala de banlieue. Et il y a la présentatrice qui se trompe. Elle annonce Pierre Roche et Aznavour, alors qu'ils devaient passer séparément. Bref, ils créent le truc, ça marche bien. Et ils sont faits pour s'entendre. Roche improvise tout ce qu'il veut au piano. Il est super doué. Il est très, très swing. Et comme vous le disiez, Aznavour, lui, il est accordéon, musette, java, tango. Il n'est pas du tout jazz, pas du tout jazzy.
Ah, il rencontre pas Pierre Roche. Il peut démarrer du mauvais pied en étant ringard.
Ah oui, absolument. Absolument. Là, c'était un...
Et il est à la page.
Et il est à la page. Et Pierre Roche, c'est un fêtard et c'est surtout un coureur invraisemblable. C'est un peu l'équivalent de Simenon, quoi. C'est-à-dire que c'est un coureur compulsif. Il a deux, trois filles en même temps tous les jours.
Est-ce qu'il a vraiment fait une tournée en province à vélo? Parce que ça aussi, vous avez l'air d'en douter. C'est-à-dire qu'il serait allé à Saumur à vélo, à deux sur un vélo, l'un sur le canne, l'autre sur la selle.
Il ne faut quand même pas nous prendre pour des enfants, pour des canards sauvages. Là, ils poussent un peu loin. Je pense qu'ils ont dû faire des trucs en vélo. Mais à deux sur un vélo, qu'on réalise 150 ou 200 km à deux sur un vélo, deux adultes avec deux valises en plus.
Oui, il y avait des porte-bagages à l'avant et à l'arrière.
Il ne faut pas exagérer ça. Non, je pense qu'ils avaient un vieux vélo ou deux vieux vélos qu'ils ont dû faire quelques kilomètres. Et puis ça devient, là encore, on brode, on en rajoute. Et c'est rigolo. Et puis c'est pas grave, finalement.
Alors, sa rencontre avec Piaf après la guerre, ouais. Un point peut-être sur lequel je ne me suis pas assez arrêté. Ils se sont entendus comme larrons en foire. Tout simplement.
C'est le gosse de la rue.
Dans l'après-concert.
Oui, bien sûr. Ils ont tous les deux cette culture de la rue. Piaf, ouais. Encore plus, évidemment. Piaf, c'est carrément le pavé, quoi. Ouais. Mais ils ont ça. Les bals popus, la valse à l'envers. Et tous les deux d'un peu des grandes gueules, tous les deux des accents, et un culot, une façon de parler un peu argotique et tout. Ils sont faits pour s'entendre. Et ils s'entendent merveilleusement. Et là, ça change la vie d'Aznavour. Même si. Par la suite, on va voir que Piaf n'a pas fait Aznavour du tout. Elle a fait Montand, elle a fait Les Compagnons de la Chanson, elle a fait Eddie Constantine et pas mal d'autres.
Mais pas Aznavour.
Mais pas Aznavour. Aznavour, elle l'aimait bien, il était dans son sillage, il lui servait de chauffeur, d'éclairagiste, de sonorisateur, de secrétaire, de tout ce qu'on veut, de souffre-douleur, beaucoup. Elle l'emmerdait.
Il remplissait ses verres.
Il faisait
aussi.
Tout ça, mais lui. Il supportait ça, pas con, et il regardait Piaf tous les soirs faire son métier comme personne, et il a tout appris avec elle.
Dernière chose, Robert Bellerey, on a une minute. Comment se fait-il que cet Aznavour si populaire, si gouailleur, si venu du pavé, ouais. À la fin de sa vie, ait pu sembler être distant, froid, voire antipathique? Je dis ça parce que je l'ai interviewé une dizaine de fois. C'était pas le Aznavour que je viens de raconter, du tout. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il a reçu pas mal de coups. Il y a eu toute l'époque où la critique l'éreintait. Donc ça, il a jamais pardonné parce qu'il était susceptible et rancunier. Moi, je l'ai rencontré dans des conditions où il était plutôt sympathique, mais il avait ses humeurs. Mais je crois qu'il y a ça, et puis il a eu des problèmes avec le fisc, il a eu des procès.
Ça a été saignant, quand même. Fisc.
Et puis il est parti en Suisse, et puis voilà. Et puis,
c'était donc le fisc, c'est pour ça qu'il n'était pas toujours sympa. Lisez cette très belle biographie de Robert Bellerey, Vie et légende de Charles Aznavour, aux éditions de l'Archipel. Olivier Delacroix est là à côté de moi, c'est lui qui prend la suite à 15h pile. À demain 14h.